bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Les rapatriés français venus de Wuhan, épicentre du coronavirus chinois, sont attendus près de Marseille aujourd'hui. Leur avion a décollé cette nuit alors que l'OMS déclare l'urgence internationale. Elle s'inquiète justement des conditions de rapatriement, vous l'entendrez. Dans ce journal aussi, témoignage d'un Britannique qui vit à Bruxelles et qui demande la nationalité belge. Le Royaume-Uni quittera officiellement l'Union européenne à minuit ce soir. Édouard Philippe est candidat à la mairie du Havre. Le Premier ministre français l'annonce ce matin, il sera même tête de liste, mais il ne compte pas laisser tomber Matignon pour autant. Et puis la France, épinglée par la Cour européenne des droits de l'homme sur la surpopulation carcérale, nous nous pencherons sur les possibles suites de cette décision. L'alerte au coronavirus monte d'un cran. Alors que près de 10 000 personnes sont contaminées, que 212 Chinois sont décédés en Chine, l'OMS estime que l'épidémie est une urgence sanitaire de portée mondiale. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète en fait de la propagation du virus à l'étranger et pas forcément en Chine, Jérémy Lanche.
Si la Chine n'avait pas réagi comme elle l'a fait, il y aurait beaucoup plus de malades dans le monde. C'est la conviction du patron de l'OMS. Tedros Ghebreyesus l'assure, la déclaration d'urgence de portée mondiale n'est pas un vote de défiance contre la Chine, c'est même tout l'inverse.
La raison principale pour laquelle je déclare une urgence internationale, ce n'est pas à cause de ce qui se passe en Chine, mais de ce qui se passe dans d'autres pays. Notre plus grande crainte, c'est que le virus se propage dans des pays avec des systèmes de santé bien plus fragiles.
L'action de Pékin doit donc être saluée, mais celle d'autres pays pose question, dit l'OMS. L'agence s'oppose à toute restriction de voyage pour les personnes ou les marchandises. Le français Didier Houssin, qui préside le comité d'urgence, est plus que sceptique sur les évacuations d'étrangers de Wuhan.
There are measures that some countries...
Certains pays peuvent procéder à des évacuations parce qu'ils en ont les moyens logistiques. Ça prouve aussi la confiance qu'ils ont dans leur capacité d'éviter une transmission chez eux. Mais clairement, tous les pays ne peuvent pas faire ça.
L'OMS distribue les bons et les mauvais points presque exclusivement au bénéfice de la Chine. Mais face aux polémiques, le directeur de l'agence insiste. Le temps n'est pas aux peurs et à la stigmatisation, dit-il, mais aux faits et à la solidarité.
L'OMS qui s'inquiète donc de certains rapatriements. Pour ce qui est des quelques 200 Français de Wuhan, l'épicentre de l'épidémie, un avion y a décollé cette nuit. Il devrait atterrir dans la journée près de Marseille. Les ressortissants seront mis en quarantaine pendant 14 jours dans un centre de vacances à Carry-le-Rouet. Et face à la propagation du virus, plusieurs compagnies aériennes ont décidé par ailleurs de réduire leurs vols vers la Chine continentale. Air France, par exemple, suspend tous ses vols réguliers jusqu'au 9 février à Kim Kasmi.
Une décision motivée par plusieurs raisons nous a indiqué la direction d'Air France. Tout d'abord par la discussion avec les autorités sanitaires françaises, mais aussi pour assurer la sécurité des salariés de la compagnie, aussi bien pour ceux qui sont expatriés en Chine que pour les équipages. Les hôtesses et stewards, qui exercent déjà depuis plusieurs jours leur droit de retrait lorsqu'ils sont affectés sur des vols à destination de la Chine, un droit de retrait qui n'a pas engendré de sanctions ou de retenue sur salaire, précisent les syndicats qui saluent des discussions constructives avec la direction et un climat social apaisé depuis l'arrivée de la nouvelle direction. À cela, il faut ajouter l'aspect économique avec des avions de plus en plus vides, avec par exemple les Airbus A380 avec à peine 150 passagers à bord. Cette suspension des vols est donc un véritable soulagement pour les partenaires sociaux qui la réclamaient depuis une semaine, car même s'ils sont habitués aux crises sanitaires comme Ebola, Zika ou encore le chikungunya, ils doutent de la sincérité des autorités chinoises quant au risque de propagation du virus. Enfin, depuis hier soir, Air France assure des vols spéciaux sur Pékin et Shanghai avec des équipages volontaires pour faire rentrer ses clients encore bloqués en Chine.
Hakim Kasmi. Le Brexit sera symboliquement acté ce soir à minuit en ce 31 janvier 2020, apogée d'un feuilleton qui aura duré 3 ans et demi, même si le Royaume-Uni va encore négocier ses futures relations, notamment commerciales avec l'Union. Cela se fera d'ici le 31 décembre. Et d'ici là, c'est un casse-tête pour les expatriés en Grande-Bretagne et pour les Britanniques qui vivent en Europe. Ils sont nombreux à demander une nationalité européenne. La nationalité belge, par exemple, est demandée chaque mois par 90 Britanniques en moyenne. C'est le cas de Michael, fonctionnaire des institutions européennes. Il témoigne sous un nom d'emprunt. Angélique Boin l'a rencontré à Bruxelles. Petit matin du 23 juin 2016, les Britanniques ont voté le Brexit. Michael travaille alors depuis 6 ans à Bruxelles. Le réveil est brutal.
Le matin, quand je me suis levé et j'ai vu le résultat, j'étais surpris et choqué par ça.
À l'époque, il n'est pas titularisé, mais il est marié à une Belge. Il demande et obtient dès le mois de janvier suivant la nationalité.
Pour avoir de la sécurité de l'emploi, en tant que Britannique, à ce moment-là, à ce stade de ma carrière, ce n'était pas sûr que je pourrais continuer au sein des institutions, mais aussi de montrer le fait que je suis pour l'Union européenne et je suis pour ce projet-là, parce que je soutiens le projet en tant que projet.
Mais comment faire carrière au sein des institutions désormais? Pour les ambitieux, le Brexit, dit-il, est un souci.
Sans le soutien d'un État membre, si quelqu'un postule pour une position qui est politiquement sensible ou qui est très haut placée, et s'il y a un choix entre un Britannique avec une double nationalité par rapport à quelqu'un qui est 100% d'un État membre, ça peut être plus difficile.
Et comment défendre l'Europe en travaillant au cœur de ses institutions quand son pays n'en fait plus partie? Michael sourit.
Mon pays serait toujours dedans en tant que Belge. Et je suis content de pouvoir rester dans ma position pour avancer les intérêts de l'Union.
Je respecte le vote démocratique, mais ce divorce, c'est le choix de mon pays, pas le mien, conclut-il.
C'était Angélique Bouin depuis Bruxelles et nous serons par ailleurs en direct de Londres dans les matins de France Culture avec Guillaume Erner et ses invités à partir de 7h, c'est-à-dire dans un peu moins d'une demi-heure. Édouard Philippe est candidat à la mairie du Havre comme tête de liste pour les municipales dans moins de 2 mois. Le Premier ministre l'annonce ce matin dans les colonnes du quotidien Paris Normandie. Il le confirmera ensuite au micro de nos confrères de France Bleu Normandie. Édouard Philippe précise également ses ambitions. Il sera tête de liste, mais en cas de victoire fin mars, il abandonnera aussitôt son siège de maire pour rester à Matignon et laisser la place à son adjoint, l'actuel maire du Havre. Le cardinal Barbarin est relaxé en appel. Il n'est pas reconnu coupable de non-dénonciation d'agression sexuelle aux yeux de la justice. Elle estime en fait que les victimes avaient les moyens de dénoncer les actes du père Prenat à Lyon. Philippe Barbarin a néanmoins décidé de présenter une nouvelle fois sa démission au pape et son départ de Lyon se précise, Mathilde Imberti.
Il l'annonce d'un ton décidé. Philippe Barbarin, depuis 17 ans archevêque de Lyon, souhaite quitter le diocèse. C'était hier après-midi dans la foulée de la décision le relaxant.
Cette décision permet de tourner une page. Et pour l'église de Lyon, c'est l'occasion d'ouvrir un nouveau chapitre. C'est pourquoi de nouveau, je vais remettre ma charge d'archevêque de Lyon entre les mains du pape François. Je peux paisiblement lui renouveler ma demande.
Son remplacement à Lyon est une question de jours, peut-être de semaines. Le Vatican fait savoir que le pape François prendra sa décision en temps voulu. Cela peut être très rapide, de même que la désignation du successeur. Quelques noms circulent déjà pour prendre la relève de Philippe Barbarin, 69 ans, à la tête d'un diocèse de taille, comptant plus de 300 prêtres en activité, mais un diocèse déchiré. L'avenir du cardinal sera fixé par le pape, là aussi. Les fidèles les plus proches le voient à un poste important, peut-être aux côtés des chrétiens du Moyen-Orient qu'il défend depuis des années, Marc Fèvre-Darcier, un laïc engagé du diocèse.
Je crois que le cardinal Barbarin est aujourd'hui plus libre de répondre aux besoins de l'Église et du monde. Le pape lui confiera probablement une mission à la hauteur de ses capacités et probablement après un temps de repos dans une terre sainte, peut-être il ira comme pèlerin ou comme prêtre.
Philippe Barbarin, dans une vidéo mise en ligne hier soir, remercie les fidèles de l'avoir accompagné durant des heures difficiles. Un tout premier message d'adieu.
C'est un arrêt sévère qu'a rendu hier la Cour européenne des droits de l'homme à l'encontre de la France. Elle demande la résorption définitive de la surpopulation carcérale, la dénonçant donc au passage. Maître Patrice Pinozzi, avocat de l'Observatoire international des prisons, l'OIP, interprète cet arrêt comme une condamnation historique avec des conséquences réelles à venir.
L'OIP va évidemment se saisir de cette décision en réengageant de nouveaux recours avec de nouveaux détenus. Les exemples ne manquent pas où il y a une surpopulation carcérale et des traitements inhumains et dégradants, hélas. Et nous allons déposer de nouveaux référés liberté, mais cette fois avec cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme en disant aux juges administratifs, vous ne pouvez plus vous borner à constater sans rien faire. Vous avez l'obligation maintenant, la Cour européenne vous impose aujourd'hui de faire quelque chose et nous irons une fois encore jusque devant le Conseil d'État. Donc on est bien dans un processus de contrainte. Ce n'est pas simplement une simple injonction morale qui a été faite à la France, c'est bien une injonction judiciaire de faire évoluer sa politique carcérale. Et aujourd'hui, on peut espérer qu'un temps nouveau va s'ouvrir avec une prise en considération, enfin, de ce que nous dénonçons depuis maintenant plus de 10 ans.
Des propos recueillis par Céline Autin. Le ministère de la Justice dit, lui, prendre acte de cet arrêt. Et il renvoie aux 7000 places supplémentaires de prison qui devraient être disponibles d'ici 2022. Le temps sera couvert ce vendredi sur l'Hexagone, pluvieux même sur une bande qui va de l'Occitanie jusqu'au Grand Est. Le soleil ne devrait se montrer que près de la Méditerranée, avec ce matin 8 degrés à Lyon, 10 à Lille, 12 à Paris et Marseille, 14 degrés sur la Corse.